Donc bonjour à tous. Toujours un privilège d'être devant vous pour vous apporter la parole de Dieu. Et merci pour cette prière aussi. Et n'oublions pas que c'est notre Seigneur qui parle à son peuple. Je suis uniquement un instrument. Donc je vous prie aussi d'avoir une pensée pour moi et de prier pour moi qui suis un faible homme et un pécheur. Mais nous sommes là pour la gloire de notre Seigneur. Nous allons lire ensemble dans Actes 4, du verset 1 au verset 22. Donc nous continuons notre série sur le livre des Actes des Apôtres. Donc aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur les 22 premiers versets du chapitre 4. Nous lisons pour la gloire de notre Seigneur. Tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, survinrent les sacrificateurs, le commandant du peuple et les sadducéens, mécontents de ce qu'ils enseignaient le peuple et annonçaient en la personne de Jésus la résurrection des morts. Ils mirent la main sur eux et ils les jetèrent en prison jusqu'au lendemain, car c'était déjà le soir. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent. Et le nombre des hommes s'éleva à environ 5000. Le lendemain, les chefs du peuple, les anciens et les scribes s'assemblèrent à Jérusalem avec Anne, le souverain sacrificateur Caïphe, Jean, Alexandre et tous ceux qui étaient de la race des principaux sacrificateurs. Ils firent placer au milieu d'eux Pierre et Jean et leur demandèrent « Par quel pouvoir ?» Ou au nom de qui avez-vous fait cela ? Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, « Chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri, sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple, sans instruction, et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Mais comme ils voyaient l'apprêt de l'homme qui avait été guéri, ils n'avaient rien à répliquer. Ils leur ordonnèrent de sortir du Sanhédrin et ils délibérèrent entre eux, disant « Que ferons-nous à ces hommes ?» Car il est manifeste pour tous les habitants de Jérusalem qu'un miracle signalé a été accompli par eux et nous ne pouvons pas le nier. Mais afin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. Et les ayant appelés, ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Pierre et Jean leur répondirent, « Jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu, car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. » Ils leur firent de nouvelles menaces et les relâchèrent, ne sachant comment les punir à cause du peuple, parce que tous glorifiaient Dieu de ce qui était arrivé. Car l'homme qui avait été l'objet de cette guérison miraculeuse était âgé de plus de 40 ans. Parole du Seigneur. Amen. Dans ces versets, dans ces 22 premiers versets, nous voyons la première opposition officielle qu'a vécue l'Église primitive, après la Pentecôte. Jusqu'ici, le livre des Actes nous a montré une église qui prie, une église qui annonce l'évangile, une église qui reçoit des nouveaux croyants, une église qui persévère dans la doctrine, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Mais dès que le nom de Jésus commence à être proclamé publiquement avec puissance, c'est à ce moment qu'on voit que l'opposition apparaît. Lorsque l'évangile est annoncé fidèlement, il produit des réactions opposées. Certains entendent et croient. D'autres vont entendre, mais ils vont résister. Certains sont attirés par la grâce de Dieu. D'autres s'irritent d'entendre qu'ils doivent se repentir et reconnaître Jésus-Christ comme leur unique et seul sauveur. Nous avons vu qu'au chapitre 3, Pierre et Jean montent au temple à l'heure de la prière. Et à la porte appelée la Belle, il rencontre un homme boiteux depuis sa naissance. Et chaque jour, cet homme est déposé près du temple et il demande l'aumône. Et il a croisé Pierre, et Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. » Aussitôt, ses pieds et ses chevilles deviennent fermes. Donc, il est guéri et il loue Dieu. Et une foule en même temps se rassemble. Et ici, le miracle devient une chair. Je ne parle pas de la chair humaine, mais de la chair ou la parole et prêcher. L'homme guéri devient une illustration vivante. Le temple devient un lieu de la proclamation. Et c'est précisément à ce moment-là que les autorités vont intervenir. Notre texte nous présente une confrontation entre deux autorités. D'un côté, on a le Sanhédrin qui possède tous les titres, qui possède l'appareil religieux, le pouvoir politique et surtout la capacité d'emprisonner. Donc on parle du magistrat ici. Et de l'autre, on a Pierre et Jean qui sont des hommes ordinaires, on le voit dans le texte, considérés comme des gens du peuple, des personnes lambda, qu'on ne connaît, comme on dit de nos jours, ni d'Adam ni d'Ève. Pierre et Jean étaient sans prestige institutionnel. Mais ils portent un nom que nul tribunal ne peut réduire au silence. Aucun tribunal peut réduire le nom de Jésus-Christ au silence. Et nous allons développer trois points ici. En premier point, les quatre premiers versets, le monde s'oppose au témoignage du Christ ressuscité. Mon deuxième point, des versets 5 au verset 12, le salut se trouve exclusivement en Jésus-Christ, la pierre angulaire. Et enfin, les versets 13 au verset 22, l'Église doit obéir à Dieu et annoncer avec assurance ce qu'elle a reçu. Donc mon premier point, les quatre premiers versets. Nous lisons, « Tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, survinrent les sacrificateurs, le commandant du temple et les Sadducéens, mécontents de ce qu'ils enseignaient le peuple et annonçaient en la personne de Jésus la résurrection des morts. Ils mirent la main sur eux et les jetèrent en prison jusqu'au lendemain, car c'était déjà le soir. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent et le nombre des hommes s'éleva à environ 5000. » Ici, Luc introduit trois groupes de personnes. On a les sacrificateurs, on a le commandant du temple et les Sadducéens. Le commandant du temple occupait une fonction importante dans l'ordre religieux à Jérusalem. Il était chargé de la sécurité et du bon fonctionnement de l'enceinte. Les Sadducéens appartenaient largement à l'élite sacerdotale et rejetaient, eux, la résurrection des morts. Donc on comprend cette, disons, cette frustration qu'on part de la résurrection des morts. Ils étaient donc à la fois doctrinalement et politiquement menacés par la prédication apostolique. Et le texte dit qu'ils sont mécontents. Ce groupe de personnes est mécontent. Mais le terme grec, lorsqu'on se penche là-dessus, porte l'idée d'une profonde irritation et d'un agacement qui est intense. Donc ils étaient tellement irrités d'entendre ce nom qui était prêché, cette parole qui était annoncée, et le fait qu'on parle de la résurrection des morts, et surtout la résurrection de Jésus-Christ. Pourquoi sont-ils si troublés? Pierre et Jean enseignent le peuple. Ils n'ont pas été formés dans les écoles rabbiniques reconnues. C'est des personnes normales. Mais ils enseignent le peuple. Ils n'ont aucun titre, aucun diplôme. Ils ne sont pas membres du cercle officiel des docteurs. Ils n'ont reçu aucune autorisation du Sanhédrin. Pourtant, ils expliquent les Écritures, interprètent l'histoire d'Israël, appellent à la repentance et proclament Jésus comme l'accomplissement des promesses annoncées. Ici, les autorités ne se demandent pas d'abord est-ce que leur enseignement est conforme aux Écritures? Ils ne se posent pas cette question. Est-ce que ces personnes qui enseignent, est-ce que cet enseignement est conforme aux Écritures? Mais ces personnes demandent plutôt qui leur a donné le droit de parler? Qui leur a donné le droit d'enseigner? Et c'est une tentation qui est constante dans nos milieux aussi. Protéger une position plutôt que de rechercher la vérité. Cela ne signifie pas que toute autorité ecclésiale est mauvaise. Ce n'est pas ce que ça veut dire. L'Écriture établit des anciens, des pasteurs. Il exige qu'ils soient capables d'enseigner, de garder le troupeau et de refuter l'erreur. Mais toute autorité humaine demeure dérivée. Toute autorité humaine demeure dérivée. Christ seul est le chef de l'Église. Christ seul est le chef de l'Église. Les pasteurs, les anciens sont des sous-bergers. Et même la congrégation est soumise à la parole de Dieu. Ainsi, une Église ne demande pas seulement qui parle, elle demande plutôt, est-ce vrai selon la parole de Dieu? C'est pas qui parle. Est-ce que ce qui est annoncé est conforme à la vérité biblique? Benjamin Kish, un pasteur baptiste particulier du XVIIe siècle, note que l'Église n'est pas une institution qui reçoit sa vie du pouvoir civil. Elle est la communauté des croyants appelés par l'Évangile et soumis à la Seigneurie de Christ. Son autorité ne vient pas des magistrats, mais de son roi, du Dieu tout-puissant et souverain sur toute chose. Pierre et Jean ne parlent donc pas parce qu'ils ont obtenu l'approbation des autorités. Ils n'enseignent pas parce qu'ils ont eu cette autorisation du Sanhédrin. Ils parlent parce que Jésus-Christ les a envoyés. Et c'est leur mandat d'annoncer l'Évangile. C'est un mandat qu'ils ont reçu. Et le verset 2 précise que les autorités sont irritées parce que les apôtres annoncent en Jésus la résurrection, donc les morts. Les Sadducéens, en effet, rejetaient la doctrine de la résurrection. Mais le problème est encore plus profond. Pierre et Jean ne proclament pas seulement la résurrection en général, ils proclament la résurrection en Jésus-Christ. « Et nous savons que ces dirigeants avaient rejeté Jésus. Ils avaient crucifié Jésus. Ils l'avaient livré aux Romains. Et ils avaient mis à mort Jésus. Mais vous savez quoi? Dieu l'a ressuscité. Les hommes ont voulu mettre fin à l'influence de Christ. Dieu a fait de lui le Seigneur vivant qui répand son esprit et qui continue d'agir même s'il n'est plus là sur terre, parmi nous. Les autorités mettent Pierre et Jean en prison jusqu'au lendemain. Et c'est la première arrestation officielle de témoins chrétiens dans le livre des Actes. Donc première opposition et premier emprisonnement. Et donc Luc ajoute immédiatement, « Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent. » Ils ont été emprisonnés, mais pendant ce temps, beaucoup crurent. C'est un contraste, hein? Quel contraste! Les apôtres sont enfermés, mais la parole, elle, elle demeure libre. Le sermon est interrompu, l'œuvre de Dieu continue dans les cœurs des gens. Les autorités veulent stopper le mouvement, mais le nombre des hommes atteint environ 5000. L'opposition n'arrête pas nécessairement la mission. Elle devient parfois l'occasion de nouveaux témoignages. L'arrestation de Pierre et Jean les conduira devant le Sanhédrin. Et ici, le tribunal deviendra une chaire. Les hommes qui voulaient empêcher la proclamation seront forcés d'entendre eux-mêmes le nom de Jésus dans ce tribunal. Ils vont l'entendre encore une fois. Frères et sœurs, l'Église ne doit jamais rechercher la persécution. Jamais. Nous pouvons être rejetés parce que nous sommes arrogants, imprudents ou inutilement agressifs. Il ne faut pas confondre courage et rudesse. Le courage de ne pas avoir peur d'annoncer la parole de Dieu que de se présenter avec rudesse ou d'aller en croisade avec les autorités publiques. Mais l'absence totale d'opposition n'est pas non plus une preuve de fidélité. Le nom de Jésus a été proclamé, ben, il y a eu de l'opposition. Ça veut dire qu'en tant que chrétien, attendons-nous à avoir de l'opposition. Attendons-nous à vivre des difficultés. Attendons-nous à voir le ciel sombre sur nous. Mais nous savons que nous avons un nom qui est au-dessus de toute chose. Et ce nom, c'est le nom de Jésus-Christ. Si l'Église proclame vraiment la sainteté de Dieu, la culpabilité de l'homme, la nécessité de la repentance, son autorité universelle, l'exclusivité du salut en lui, alors elle rencontrera parfois la résistance. Mon deuxième point, le salut se trouve exclusivement en Jésus-Christ, la pierre angulaire, des versets 5 au verset 12. Le lendemain, les chefs, les anciens et les scribes se réunissent. Luc mentionne Anne, Caïphe, Jean, Alexandre et tout ce qui appartenait à la famille des principaux sacrificateurs. Pierre et Jean se tiennent donc devant la plus haute autorité religieuse. Eux qui sont pas des personnes d'une autorité quelconque, de simples personnes, devant cette autorité. Il demande, par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela? C'est la question qu'il demande à Pierre et à Jean. Par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela? Leur question ici contient, on peut dire, une accusation qui est implicite. Ils sont en train de les accuser de façon implicite. Ils reconnaissent qu'une puissance a été exercée ici. Mais ils veulent savoir au nom de quelle autorité. Et Pierre va répondre sans ambiguïté ici. Des versets 8 au verset 10. Nous lisons, « Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, « Chef du peuple, anciens d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri, sachez-le tous et que tout le peuple d'Israël le sache, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. » On voit un Pierre ici qui est courageux. On voit un Pierre qui se lève avec courage pour répondre. Le courage de Pierre ne vient pas d'une personne qui est naturellement héroïque. Non. Il vient de la grâce de Dieu dans un homme qui est conscient de ses faiblesses. Il avait nié connaître Jésus. Il avait dit qu'il n'était pas son disciple. Mais Pierre a été restauré. Et Dieu n'utilise pas seulement ceux qui n'ont jamais chuté. Dieu n'utilise pas seulement les personnes qui sont de bonne moralité. Dieu restaure les pécheurs repentants. Il prend celui qui a peur et lui donne le courage. Il prend celui qui l'a renié et il en fait un témoin. Et nous voyons que Pierre remplit du Saint-Esprit. Ici, le verbe rempli du Saint-Esprit ne signifie pas nécessairement que Pierre n'avait pas reçu l'Esprit Saint avant. Au jour de la Pentecôte, c'est pas ce que ça veut dire ici. Il décrit ici une assistance qui est particulière et actuelle pour témoigner de Christ, conformément à la promesse de Jésus en Luc 12, des versets 11 au verset 12. Nous lisons, quand on vous mènera devant les synagogues, les magistrats et les autorités, ne vous inquiétez pas de la manière dont vous vous défendrez, ni de ce que vous direz, car le Saint-Esprit vous enseignera à l'heure même ce qu'il faudra dire. Ils avaient cette assurance-là, que l'Esprit allait leur donner de quoi dire. Qu'est-ce qu'ils allaient dire pour se défendre ? Et remarquons aussi le temps de Pierre, au verset 8. Il dit, « Chef du peuple et ancien d'Israël. » Chef du peuple et ancien d'Israël. Il demeure respectueux, même s'il sait qu'il a un Dieu qui est au-dessus de tout, mais il demeure respectueux. Le courage chrétien, ce n'est pas de l'insolence. Pierre ne les flatte pas, mais il ne les insulte pas. Il ne dissimule pas la vérité, mais il parle avec dignité et il parle avec courage. La fidélité unit en même temps la fermeté et l'humilité. Pierre souligne d'abord l'ironie de la situation au verset 9. Puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade. C'est ironique, ici. Puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade. Ils sont jugés pour avoir fait du bien. Mais qui d'autre a été jugé inutilement, si ce n'est que Christ ? Un homme boiteux depuis plus de 40 ans marche maintenant. Personne n'a été volé. Personne n'a été blessé ici. Mais un homme a été restauré. Mais ce bienfait dérange parce qu'il révèle la puissance du nom de Jésus. Pierre répond au verset 10, « Sachez-le tous, et que le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. » Et toute la prédication apostolique se trouve condensée ici. Jésus est le Christ. Il est le Messie promis, le roi attendu, celui vers lequel converge l'histoire de la rédemption. Il est Jésus de Nazareth, le Fils éternel, réellement entré dans l'histoire, et qui a vécu dans une ville précise, Nazareth. Jésus a souffert, il a marché parmi les hommes, et vous l'avez crucifié. Vous l'avez crucifié. Ici, Pierre ne cherche pas à rendre son message plus acceptable. Il nomme la culpabilité. Vous l'avez crucifié. Vous l'avez crucifié. Et la croix de Christ, révèle le rejet de Dieu par l'homme. La croix de Christ nous révèle le rejet de Dieu par l'homme. Le Fils de Dieu est venu chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. Mais la croix est aussi l'accomplissement du plan souverain de Dieu. Christ, par son obéissance parfaite et le sacrifice de lui-même, a pleinement satisfait la justice de Dieu. Il a acquis la réconciliation et obtenu un héritage éternel pour ce que le Père lui a donné. Et à la croix, Jésus n'est donc pas seulement victime de l'injustice humaine. Il est le substitut de son peuple. Il nous a remplacés. Il a pris sur lui tout ce qui devait nous arriver. Et le verdict humain est renversé. La résurrection confirme que le sacrifice du Fils a été accepté. Elle révèle que la mort n'a aucun droit permanent sur lui. Elle inaugure la nouvelle création, elle garantit la résurrection future de son peuple. Et Pierre cite ensuite le verset 11, au verset 11, le psaume 118. Nous l'avons lu, vous allez peut-être vous rappeler. Donc au verset 11, il cite le psaume 118. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez, et qui est devenue la pierre, est devenue la principale de l'angle. Les chefs d'Israël se considéraient comme les bâtisseurs du peuple de Dieu. Ils se considéraient comme des bâtisseurs du peuple de Dieu. Ils contrôlaient le temple, ils jugeaient les enseignements. Mais lorsque la pierre choisie par Dieu s'est présentée devant eux, ils l'ont rejetée. Ils l'ont rejetée. Et ici, le terme rejeté exprime l'idée d'une pierre qui a été examinée de fond en comble et dont la décision était qu'elle est inutile. Donc ils ont considéré que Jésus était inutile, que Jésus n'apportait rien, que Jésus ne convient pas à notre édifice. Mais Dieu a fait de lui la pierre principale. Et selon l'interprétation possible de l'image, il est soit la pierre fondamentale qui détermine l'alignement de tout l'édifice, il est le fondement. Il est la base de toute chose. Il est indispensable et il est souverain. Il n'est pas un élément décoratif de l'église ou un élément décoratif du temple. Une église peut avoir un bâtiment, peut avoir un gros bâtiment. peut avoir un budget incommensurable. Elle peut avoir une histoire, on le voit. Elle peut avoir une réputation. Mais si Christ n'est pas sa pierre angulaire, elle perd ce qu'elle fait d'elle une église. Si Christ n'est pas sa fondation, elle n'est pas une véritable église. Et Pierre arrive au sommet de sa réponse, au verset 12, où il dit « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Et ici, chaque expression mérite notre attention. Chaque expression. Il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a de salut en aucun autre. Ni Moïse, ni David, ni Abraham, ni notre moralité, ni notre baptême. Ni notre connaissance doctrinale. Il n'y a de salut en aucun autre que quand Jésus-Christ. Et nous avons aussi aucun autre nom sous le ciel. Aucun autre nom sous le ciel. Et ici, l'affirmation est universelle. Elle ne concerne pas seulement Israël ou une catégorie spécifique de personnes. Sous tout le ciel, parmi tous les peuples, il n'existe aucun nom salvateur que celui de Jésus-Christ. Qui a été donné parmi les hommes? Qui a été donné parmi les hommes? Le salut vient de l'initiative souveraine de Dieu. L'humanité n'a pas produit son propre sauveur. Dieu a donné son Fils, et le nom de Jésus est un don du ciel à des hommes qui sont incapables de se sauver eux-mêmes. Par lequel nous devions être sauvés. Par lequel nous devions être sauvés. Le verbe ici exprime une nécessité divine. Cela faisait partie du plan divin de Dieu. Jésus n'est pas une possibilité parmi tant d'autres. Et pourquoi cette exclusivité? Parce que notre problème n'est pas simplement l'ignorance. Nous sommes coupables. Nous sommes coupables. Et Dieu, dans sa grande miséricorde, a senti, a vu notre désir, notre besoin d'un sauveur en la personne de Jésus-Christ. Il nous fallait un substitut. Il nous fallait un sauveur qui nous renouvelle. Nous sommes séparés de Dieu. Nous étions séparés de Dieu et il nous fallait un médiateur. Jésus seul est pleinement Dieu et pleinement homme. Lui seul a vécu sans péché. Lui seul a accompli toute la justice. Lui seul a porté la malédiction que nous devrions porter. Et lui seul est ressuscité en vainqueur. Notre confession de foi présente Christ comme prophète, comme sacrificateur et comme roi. Comme prophète, il révèle parfaitement Dieu. Comme sacrificateur, il offre le sacrifice parfait et intercède pour son peuple. Et comme roi, il dirige toutes choses. Il gouverne toutes choses. Il gouverne sa création. Et cette vérité, frères et sœurs, ne produit pas en nous une certaine arrogance. Elle produit en nous une humilité. Parce que nous ne méritions pas ce salut. Nous ne sommes pas sauvés parce que nous aurions été meilleurs. Non. Nous sommes sauvés par grâce. La foi n'est pas une œuvre méritoire. Elle est la main vide qui reçoit Christ. Mais cette vérité produit aussi la mission. Christ nous a sauvés. Et qu'est-ce que nous faisons maintenant? Ces vérités produisent en nous cette mission, ce mandat qui nous est confié. S'il n'y a de salut en aucun autre, alors son nom doit être annoncé. Nous ne cherchons pas à imposer la foi par le pouvoir civil. Le royaume de Christ est spirituel. La conversion ne peut être produite par l'épée du magistrat. Elle vient par la parole et par l'esprit. Et donc nous supplions donc les hommes, soyez réconciliés avec Dieu. Soyez réconciliés avec Dieu. Et mon troisième point, l'Église doit obéir à Dieu et annoncer avec assurance ce qu'elle a reçu. Des versets 13 au verset 22. Nous lisons au verset 13. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'était des hommes du peuple sans instruction. Et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'était des hommes du peuple sans instruction. Et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Pierre et Jean sont décrits comme des hommes sans instruction, des gens du peuple. Cela ne signifie pas qu'ils étaient analphabètes. Ça ne veut pas dire qu'ils ne lisaient pas, ils n'étudiaient pas. Ce n'est pas ce que ça veut dire ici. Cela signifie qu'ils n'avaient pas reçu la formation rabbinique officielle reconnue par l'ordre actuel à ce moment-là. Et c'est pourquoi ils étaient des personnes sans instruction. Parce que c'était la norme à l'époque d'avoir une formation rabbinique officielle, reconnue par l'élite. Mais Pierre et Jean étaient, eux, sans instruction. C'était des gens du peuple. Mais vous savez quoi? Eux, ils avaient été avec Jésus. Ils avaient été avec Jésus. Et ce texte ne justifie pas le mépris de faire des études, non. Au contraire, l'Église a besoin d'officiers capables d'enseigner. Paul demande à Timothée de s'appliquer à la lecture, à l'exhortation et à l'enseignement. Mais l'efficacité spirituelle, selon John Stott, ne dépend pas ultimement des titres ou des diplômes. Dieu prend des hommes ordinaires. Il les unit à Christ. Il les instruit par sa parole. Il les remplit de son esprit. Et il les rend capables de témoigner. Des gens ordinaires. Les chefs reconnaissent que Pierre et Jean avaient été avec Jésus. Parce qu'ils les voyaient ensemble. Parce que Jésus a été dans ce tribunal aussi. Donc ils savaient que Pierre et Jean étaient avec Jésus aussi. Et donc, la présence de Christ avait laissé une marque en eux. Leur compréhension des Écritures, leur courage, leur clarté et leur manière de parler révélaient qu'ils avaient vécu auprès du Maître. La question ici n'est donc pas seulement est-ce que nous possédons la bonne doctrine? Est-ce que nous possédons la bonne doctrine? Mais elle l'est aussi. Est-ce que notre vie montre-t-elle que nous avons été avec Jésus ou que nous sommes avec Jésus? Est-ce que nous reflétons le caractère de Christ? Est-ce que nous avons le courage du Christ? la sensibilité de Christ, la compassion de Christ, la joie de Christ. Il est possible d'avoir un vocabulaire réformé. C'est vrai que dans nos milieux, on est très tourné sur tout ce qui est intello, intellectuel. Mais on peut être aussi très orgueilleux avec ça. On peut avoir tout le répertoire, toutes les doctrines dans notre tête. Mais est-ce que nous avons vraiment Christ dans notre cœur? Est-ce que nous manifestons l'humilité de Christ? Il est possible de défendre les cinq solas sans manifester la douceur de Christ. Il est possible de confesser la souveraineté de Dieu tout en refusant de pardonner à son frère. La saine doctrine devrait manifester en nous une saine piété à l'image de Christ. Et au verset 14, nous lisons: mais comme ils voyaient là près d'eux l'homme qui avait été guéri, ils n'avaient rien à répliquer. L'homme guéri ne prononce aucun discours. Il se tient debout et sa présence suffit. Sa présence en lui-même, le fait qu'il marche, qu'il loue, ce miracle est un message, est une prédication en soi. Celui qui était boiteux marche, celui que tous connaissaient comme infirme devient une preuve vivante de la puissance du nom de Jésus. Et l'Église doit annoncer verbalement l'Évangile. Les bonnes œuvres ne remplacent jamais la proclamation, mais les vies transformées confirment le message. Lorsque l'orgueilleux devient humble, lorsque le croyant souffrant persévère dans l'espérance, alors le monde rencontre les effets visibles de la grâce de Dieu. Et par la suite, les autorités se retirent pour délibérer. Elles disent, au verset 15 à 16, que ferons-nous à ces hommes? Car il est manifeste pour tous les habitants de Jérusalem qu'un miracle signalé a été accompli par eux. Et nous ne pouvons pas le nier. Ils le reconnaissent. Mais est-ce qu'ils se répondent? Non. Pas du tout. Tout ce qu'ils essaient de faire, c'est de faire en sorte que le nom, ce précieux nom, ne soit pas propagé, ne soit pas annoncé. Ils reconnaissent le fait. Ils voient l'homme guéri. Ils admettent que le miracle est public. Mais non. Ils ne se répondent pas. Ils cherchent seulement à entraver la force de ce nom, la puissance de ce nom. Vous savez, l'incrédulité n'est pas toujours simplement un manque de preuves. Non, ce n'est pas toujours un manque de preuves. Le cœur peut reconnaître un fait sans en accepter la signification. Oui, on peut reconnaître un fait, mais on peut ignorer ou refuser d'admettre ce que cela veut dire. Pourquoi? Parce que nous refusons de nous soumettre à Jésus. Volontairement, nous ne voulons pas nous soumettre à Jésus. Et John Stott, dans ses commentaires, souligne le contraste saisissant entre l'évidence et l'endurcissement, l'évidence du miracle et l'endurcissement des chefs. Il écrit: la lumière peut être devant les yeux et le cœur demeurer fermé. Cela nous rappelle notre dépendance absolue de la grâce. Nous devons exposer clairement les Écritures. Nous devons répondre honnêtement aux objections. Nous ne devons pas cultiver une foi irrationnelle. Mais seul le Saint-Esprit peut ouvrir les cœurs. Seul le Saint-Esprit. Et nous, tout ce que nous devons faire, c'est proclamer, exposer la parole de Dieu. Proclamer le nom de Christ comme Seigneur et Sauveur. Et c'est l'Esprit Saint qui ouvre les cœurs. Et cette conviction ne nous rend pas passifs. Pas du tout. Elle nous pousse à persévérer, à prêcher fidèlement la parole de Dieu et à prier de façon ardente. Et donc les chefs rappellent Pierre et Jean et leur interdisent de parler ou d'enseigner au nom de Jésus. C'était le verdict. Les apôtres répondent au verset 19. Jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. J'aurais bien aimé assister à ça. Est-ce qu'on aurait eu ce courage, non? Devant un tribunal humain. Jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Cette réponse établit un principe fondamental. Toute autorité humaine est réelle. Toute autorité humaine est réelle. Mais elle est limitée. Elle est limitée. Elle est réelle, mais elle est limitée. Les chrétiens doivent honorer les magistrats. Ils doivent obéir aux lois qui sont justes. Ils doivent prier, la parole de Dieu de prier pour nos gouvernements, pour nos autorités, pour qu'on puisse adorer en toute tranquillité, en toute sécurité. Notre confession de foi reconnaît que le magistrat civil est ordonné par Dieu pour le bien de la société, mais aucune autorité n'est absolue. Aucune autorité n'est absolue. Et donc, lorsqu'un gouvernement ordonne ce que Dieu interdit, nous devons obéir à Dieu. Lorsqu'une institution interdit ce que Dieu commande, nous devons obéir à Dieu. Et ici, on voit que Pierre et Jean ne réagissent pas avec violence. Pas du tout. Ils n'organisent pas une insurrection. Ça aurait pu être une insurrection, vous savez. Parce qu'ils avaient un peuple aussi avec eux. En fait, des gens, en fait, pratiquement plus de 5000 qui étaient avec eux. Ça aurait pu être une insurrection. Mais vous savez quoi? Ils ne méprisent pas le tribunal. Ils ne sont pas dans une position où ils méprisent ceux qui sont en face d'eux. Ils placent simplement l'autorité humaine sous l'autorité suprême de Dieu. La question décisive n'est pas qu'est-ce qui nous évitera toutes les conséquences? C'est pas ça la question. C'est plutôt qu'est-ce qui est juste devant Dieu? Qu'est-ce qui est juste devant Dieu et qu'est-ce qui est régi dans sa parole? Notre confession de foi au chapitre 21, paragraphe 2 de la liberté de conscience. Nous lisons, Dieu seul est le Seigneur de la conscience. Il a affranchi des doctrines et commandements des hommes qui sont en quelque chose contraire à sa parole, ou qui sont à côté d'elle dans les matières de la foi, de foi et de culte. De sorte que croire de telles doctrines ou obéir à de tels commandements par motif de conscience, c'est trahir la vraie liberté de conscience et requérir une foi implicite. Et une obéissance aveugle et absolue, c'est détruire la liberté de conscience et aussi la raison. Dieu seul est le Seigneur de la conscience. Dieu seul. Et que celle-ci ne doit être liée que par sa parole. Que par sa parole. Non pas par des doctrines ou commandements humains contraires à l'Écriture ou fondées par des hommes. Et cela protège la liberté chrétienne contre toute autorité humaine qui imposerait une foi implicite, une obéissance aveugle ou des pratiques qui sont sans mandat biblique. La vraie liberté de conscience n'est pas une autonomie personnelle, mais la soumission fidèle à Dieu dans les limites claires de l'Écriture, de ses saintes Écritures, selon le principe de la sola scriptura. Aucune autorité humaine, aucune, ne peut prendre la place de Christ. Aucune autorité. Ni l'État, ni une institution religieuse, ni un pasteur, et même une majorité congrégationnelle ne peut pas prendre la place de Christ. Les anciens exercent une autorité pastorale réelle, et les membres doivent les honorer lorsqu'ils se conduisent fidèlement. Mais ils ne peuvent pas, mais ils ne peuvent lier la conscience là où l'Écriture ne la lie pas. De même, le congrégationalisme, parce qu'on a souvent eu des débats là-dessus, ne signifie pas qu'une opinion majoritaire se transforme en révélation. Pas du tout. C'est pas parce qu'un vote est majoritaire que ça devient une révélation. Anciens, officiers et membres demeurent ensemble sous l'autorité de Christ, parlant dans sa parole. C'est sa parole qui est l'autorité suprême. Et Pierre et Jean ajoutent au verset 20, « Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. » Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Il s'agit d'une nécessité qui est morale et spirituelle, ici. Ils ont vu le Christ ressuscité. Ils ont été avec lui. Ils ont été avec le Maître. Ils ont reçu son mandat. Ils savent que le salut ne se trouve en aucun autre. Que le salut se trouve en Christ seul. Comment pourrait-il se taire? Comment pourrait-il se taire? Nous ne sommes pas des témoins oculaires au même sens que les apôtres, mais nous recevons leur message inspiré dans les Écritures. L'Église demeure apostolique, non en inventant de nouveaux apôtres. Non. Parce que savons que ça existe aujourd'hui des apôtres. Bon, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais l'Église n'est pas là à inventer des apôtres. Mais l'Église reste attachée à la doctrine apostolique, reste attachée à la vérité qui est présente dans les Écritures saintes. Plus nous contemplons la croix, plus nous mesurons la grâce. Plus nous croyons à la résurrection, plus nous comprenons que le nom de Jésus mérite d'être proclamé. Les chefs menacent encore les apôtres, puis les relâchent. Pourquoi? Parce que le peuple glorifie Dieu pour ce qui est arrivé. Le peuple glorifie Dieu pour le miracle qu'ils ont vécu. Et Luc précise que l'homme avait plus de 40 ans. Son infirmité était connue depuis des décennies. C'était donc un événement. Le miracle était visible et le miracle était public. Et la scène se termine donc ainsi. Les autorités sont mécontentes. Les autorités sont mécontentes. Les témoins sont menacés, mais l'homme est guéri. Le peuple glorifie Dieu. Quel que soit... ce que nous vivrons en tant que chrétiens, en tant que messagers du Christ. Même si nous sommes enfermés, emprisonnés, sachons que la parole de Dieu, elle va être libre. La parole de Dieu va continuer de faire son œuvre dans le cœur de tout le monde, dans le cœur des gens. Le nom qu'ils veulent étouffer continue de se répandre. Quelques applications. Frères et sœurs, est-ce que nous cherchons un christianisme qui ne dérange jamais personne? Sommes-nous tentés d'enlever de notre message tout ce qui pourrait offenser? Parce que lorsqu'il faut parler du péché, on parle du péché. Lorsqu'on doit parler de l'enfer, on doit parler de l'enfer. Parlons-nous de l'amour sans parler de la sainteté? Parlons-nous de la grâce sans repentance? Parlons-nous de Jésus comme notre aide personnelle, mais non comme notre Seigneur? Nous devons parler, nous devons proclamer le nom de Christ avec joie, de ne pas avoir peur du contenu de sa parole. Nous devons proclamer le message apostolique dont nous avons tous besoin d'entendre. Et nous ne devons jamais avoir honte du Christ ressuscité. Deuxièmement, gardons Christ au centre de notre prédication. Christ au centre de notre prédication. Pierre annonce Jésus de Nazareth, il annonce Jésus crucifié, il annonce Jésus ressuscité, la pierre angulaire et l'unique sauveur. Et sur quoi repose notre espérance? Est-ce sur le fait que nous soyons une bonne personne? Ou que nous ayons une bonne moralité? Ou sur notre baptême? Sur nos connaissances bibliques? Sur notre doctrine parfaitement apprise? Même notre confession résume la vérité concernant le Sauveur, mais elle ne remplace pas le Sauveur. Notre espérance repose sur Christ seul, sur lui seul. Troisièmement, unissons la sainte doctrine à une vie transformée. Nous ne devons pas seulement être connus pour notre doctrine, pour notre étude assidue de la parole de Dieu. Mais est-ce que nos frères voient en nous réellement ses fruits? Est-ce qu'on voit en nous les effets de cette saine doctrine? Dans la façon dont nous marchons, dont nous parlons, dont nous annonçons l'évangile, dont nous sommes avec nos frères et sœurs. Est-ce que nous voyons cela? Est-ce que nous voyons les effets de cette doctrine-là? Quatrièmement, soumettant toute autorité humaine à celle du Christ. Honorant les magistrats et respectant nos anciens aussi. Prions pour nos autorités. Prions pour les magistrats, pour les gouvernements. Mais n'accordons jamais à un homme la place qui appartient à Dieu. Enfin, prions pour l'assurance du Saint-Esprit, pour le courage chrétien. Prions pour pouvoir annoncer fidèlement la parole de notre Seigneur avec courage, avec joie et avec humilité. En conclusion, nous venons de voir que le Sanhédrin possède des titres, le pouvoir institutionnel et même la capacité de menacer le peuple de Dieu. Pierre et Jean sont des hommes ordinaires, des gens comme nous. Mais il porte un nom qu'aucune puissance ne peut vaincre. C'est le nom de Jésus-Christ. Les hommes ont rejeté la pierre angulaire. Dieu en a fait la pierre principale. Les hommes l'ont crucifié, Dieu l'a ressuscité. Les chefs ont emprisonné les témoins. Et la parole a produit la foi. Ils ont ordonné le silence. Et les apôtres ont déclaré, nous ne pouvons ne pas parler. Nous ne pouvons ne pas parler. Et le sens du passage n'est donc pas principalement le courage de Pierre ici. Le sens du message est la victoire de Jésus-Christ. La victoire de notre Seigneur. Pierre est courageux parce que Jésus est vivant. Les pécheurs sont sauvés parce que Jésus a accompli l'œuvre. L'Église parle parce que Jésus lui en a donné l'ordre. Peut-être ressemblez-vous spirituellement à cet homme boiteux. Vous êtes incapable de vous relever devant Dieu par vos propres œuvres, par votre propre force. Vous avez besoin de Jésus-Christ. Lui, il a vécu dans l'obéissance parfaite. Il est mort à la place des pécheurs. Il est ressuscité pour leur justification. Il reçoit tout ce qui vient à lui par la foi. Il n'y a de salut en aucun autre qu'en Jésus-Christ. Et vous, qui appartenez déjà à Christ? Souvenez-vous que le Seigneur ne vous demande pas de gagner le monde par vos propres puissances. Il vous appelle à demeurer avec Jésus, à dépendre de son esprit, à annoncer sa parole, à lui obéir au-dessus de toute crainte. Nous devons donc parler avec amour, car les pécheurs ont besoin d'un sauveur. Nous devons parler avec vérité, car aucun autre nom ne sauve, si ce n'est que le nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur fasse de nous une Église fondée sur Christ seul, soumise à l'Écriture seule, annonçant le salut par la grâce seule, reçue par la foi seule, pour la gloire de Dieu seul. Une Église dépendante du Saint-Esprit, une Église respectueuse des autorités en place, mais soumise à Jésus-Christ comme seul Seigneur de la conscience. La pierre rejetée est devenue la pierre angulaire. Le Christ crucifié est ressuscité. Le salut ne se trouve en aucun autre. Que son nom soit notre espérance, notre message, notre courage et notre gloire. Amen. Prions. Père céleste, nous te bénissons pour Jésus-Christ, la pierre rejetée par les hommes, mais établie par toi comme pierre angulaire. Nous te remercions parce que celui que les hommes ont crucifié est vivant. Il est ressuscité et il est à la droite du Père. Et nous te remercions parce qu'il n'y a de salut en aucun autre que lui. Remplis-nous par ta grâce de ton Saint-Esprit. Donne-nous une assurance humble, aimante, dépendant de ta grâce éternelle. Donne-nous de persévérer dans la doctrine apostolique, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières éternelles, notre Dieu. Nous te prions de nous aider à respecter nos autorités, Seigneur, établi. Donne-nous le courage de t'obéir lorsque les hommes nous demandent de désobéir à ta parole. Que le nom de Jésus soit annoncé, que les pécheurs soient sauvés et que ton Église soit édifiée. Seigneur, que toute gloire te revienne. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre pierre angulaire et notre unique Sauveur. Amen.